présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
Dans le réfrigérateur et dit « Il y a des œufs, du porter,
une pêche, du pain et de l'eau. »
Elle s'assoit en face de lui.
Il mange, elle sourit et lui dit
« Pourquoi est-ce que tu n'enlèves pas ta casquette? Tu es comme mon frère. » Avec sa casquette, il couchait même avec la nuit. Elle se lève et lui dit « Il faut que je retourne travailler. » Et elle le quitte.
Il a fini de manger, se sent bien et décide de s'allonger.
Il va dans la chambre. Allons sur le lit.
La digestion le fait dormir de suite. Ses rêves sont rouges, noirs. Il ne sait pas vraiment qui il est. Il ne se pose pas de questions. Il se trouve bien jeune pour tout ce qu'il y a dans sa tête. Puis, ils sombrent dans le sommeil le plus complet. Il est réveillé par une main qui lui caresse le dos et lui donne des baisers. Elle lui dit « Ça va mon petit poussin, tu as bien dormi ?» Il se retourne vers elle et lui dit « Oui ». D'un geste, elle lui enlève sa casquette. « Qu'est-ce que tu as eu ?» Il ne répond pas. Elle lui dit « Tu es tombé ?» Non, plutôt on dirait que tu as eu une opération. Elle a dû être importante. Qu'est-ce que tu avais comme maladie ? Il lui dit, rien. Elle lui dit, on n'opère pas pour rien. C'est encore tout rouge. C'est récent. Il lui dit, où ? Elle lui dit, opérer du cerveau, c'est grave. Tu as des soins à faire ? Il lui dit, je ne sais pas. Elle lui dit, tu t'es pas sauvé d'un hôpital, toi au moins? Parce que là, c'est grave. Tu étais dans quel hôpital? Il lui répond, je ne sais pas. Elle le regarde bien et lui dit, tu n'aurais pas perdu la mémoire, toi, par hasard? Je crois que je vais être obligé, c'est de te mener au commissariat. C'est pourtant bien que je le fais, tu sais. Elle se soulève et lui dit, viens. D'un geste brusque, il la tire à lui et la renverse sur le lit. Il se plaque sur elle. Elle a à peine le temps de se défendre que c'est trop tard. Il la maintient bien contre lui. Elle lui demande.
Mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu es complètement idiot. Arrête et lâche-moi. Laisse-moi.
Il lui met la main sur la gorge, tout en se maintenant pour éviter qu'elle ne se défende contre elle. Et les mains serrent la gorge, une gorge mince et lisse. Elle gigote de tout son corps. Sa respiration est forte, ses yeux grands ouverts, le regard apeuré. Il serre. Il est en sueur, c'est pénible de la maintenir et de serrer. Enfin, il sent que le cordon du cou craque.
La main s'enfonce plus profondément dans la peau. Et en serre le cou plus profondément. Elle suffoque, bouge de moins en moins. Elle a le visage rouge, en sueur, la langue pendante. Ses gestes sont de moins en moins certains et forts. Sa respiration de moins en moins forte. Ses gestes diminuent. Elle ne bouge plus. Le visage reste fixe. Il se retire en sueur. Elle ne bouge plus. Il se relève en sueur. Ramasse sa casquette à terre. La met. Regarde autour de lui. Ouvre l'armoire. Les tiroirs pour prendre de l'argent. Il sort du studio. Il est sorti de l'appartement et de l'immeuble. Il fait encore jour. Marche devant lui. Il a la démarche d'un jeune homme de 15 ans. Arrivé sur le bord de Seine, il voit des jeunes qui jouent avec des planches à roulettes. L'un d'eux s'approche de lui. « Salut, tu as une clope ?»« Non. Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Rien. Tu veux jouer avec nous ?» Il hausse les épaules et s'éloigne. D'enfant n'a pas parlé du grave incident à Galien, car il a peur qu'il ne veuille plus qu'on en fasse de ses expériences. Riquin a embauché des jeunes pour qu'ils retrouvent le fuyard et leur a donné une photo. Mais ça ne donne rien.
Galien continue à voir Guillaume qui ne fait pas grand-chose. Il se laisse vivre. Un jour, Galien lui dit « Faut penser à ton avenir et travailler un peu. » Guillaume lui répond « Mon avenir, ma mère s'en occupe. » Galien lui dit « Si tu veux ton indépendance, c'est toi qui dois t'en occuper. » Guillaume lui dit « De toute façon, nous n'avons plus d'avenir. » Galien lui dit « Si nous avons de l'avenir, la science fait des progrès énormes et nous propose un avenir radieux. » Galien lui dit « Tu parles comme une secte. D'ailleurs, tu es l'élu. Cela ne te gêne pas d'être l'élu ?» Galien lui dit « C'est qu'un surnom. Cela ne veut rien dire. » Guillaume lui dit « Cela ne veut rien dire pour toi, mais pour les autres. » Galien ouvre ses épaules et lui dit « J'y suis pour rien. » Si on m'appelle ainsi. Et puis, arrête de me parler comme ça. Nous, au moins, nous travaillons pour l'avenir. Et c'est essentiel. Cela vaut mieux que de ne rien foutre. Si la France ne se réveille pas, elle va devenir un pays sous-développé. Guillaume lui demande, tu es fâché? Non, pourquoi? Mais j'ai peur que si tu ne fasses rien, si tu te laisses vivre, que deviendras-tu plus tard? Tu sais, dans la vie, il faut être le plus indépendant possible. Si tu comptes sur les autres et que les autres, pour une raison ou une autre, ne peuvent plus t'aider, tu vas te trouver perdu, sans rien. Malheureusement, ta mère ne va pas éternellement vivre. Et si tu ne vas pas, et si tu ne travailles pas, ce qu'elle va te laisser va vite être dilapidé. Guillaume lui dit, tu seras là. Galien lui dit, oui, mais s'il m'arrive un accident ou autre, je ne suis pas immortel. Guillaume lui dit, ils prendront ton ADN et te mettront dans un corps, dans un autre corps. Galien lui dit, s'ils le font, malgré tout, ce ne sera pas vraiment moi. Et peut-être que je ne te reconnaîtrai plus. Guillaume lui dit, je croyais que l'on retrouvait la mémoire. Galien lui dit, peut-être pas toutes. La mort efface vite. Il faut faire très vite. Mais ça ne t'ennuierait pas de me voir sous une autre forme physique? Guillaume lui dit, non, parce que je saurais que c'est toi. Mais je peux moins te plaire. Je peux être laid, vieux, être une femme. Un animal? Guillaume lui dit, un petit chien. Comme cela, je te promènerai tous les jours dans le parc. Galien lui dit, et je courrai les chiennes en chaleur. Je te ferai chartrer, salaud. C'est moi qui vais te chartrer, tu vas voir. Et il fonce sur lui, le renverse à terre, se penche et se soulève un peu. Il lui défait son pantalon. Tu vas voir mon salaud, je vais te la bouffer. Censure. Le jeune Christian erre dans les rues de Paris au hasard. Il couche dans des allées car il ne sait pas où aller. Dans ses passés,
des brides de vie lui reviennent en mémoire. Il se rappelle d'une villa luxueuse avec une belle femme, deux enfants. Il est médecin, une belle maison dans un parc. Il se demande pourquoi il n'a plus tout ça. Qu'est-il arrivé? Puis, il a des crises de colère. Il les tuera tous. Mais pourquoi? Qu'était-il avant? Avant quoi? Que fait-il dans ce corps de jeune adolescent? Il ne comprend pas. Mais sans un besoin de vengeance. Comment faire pour savoir? Il traîne dans les rues comme ça. On ne le remarque pas. C'est un jeune qui passe. D'ailleurs, les jeunes sont constamment dehors, même aux heures les plus tardives. Une nuit, il traîne dans la rue. Il entend derrière lui un coup de sifflet. Arrêtez! On le prend par le bras. Un homme en costume gris, taille moyenne, cheveux châtains, lui met devant les yeux une carte de police. L'homme lui demande: qu'est-ce que tu fais ici? Tout seul. Rien. Tu fugues? Non. Viens avec moi. Et Christian se laisse mener par l'homme qui le mène à une voiture, le fait entrer dedans. Il demande: nous allons où? Le commercial lui dit: au quai des Orfèvres. Mais je n'ai rien fait. Ça, on va voir. Et la voiture démarre. La voiture s'est arrêtée dans la cour du quai des Orfèvres. Il le fait sortir de voiture. Il le prend par le bras. Viens avec moi. Il suit l'homme. Il ouvre une porte. Entre. Il entre. Monte des escaliers. C'est grand, sale, triste. Il lui fait suivre un long couloir. Entre. Il entre. C'est un bureau.
tout petit, avec une table, machine à écrire et des chaises. La fenêtre a des barreaux. Assieds-toi. Il s'assoit. L'homme va s'asseoir à son bureau.
L'homme qui est commissaire lui demande « Alors que faisais-tu à traîner comme ça dans les rues la nuit ?»«
Rien, monsieur. J'ai rien fait de mal. » »«
Ça, c'est nous qui verrons. Enlève ta casquette. » Il enlève sa casquette. « Qu'est-ce que c'est que cette cicatrice ?»«
Rien, monsieur. Rien. Je suis tombé. » Le
commissaire lui dit « On dirait plutôt une cicatrice d'opération. Tu as des papiers d'identité ?»«
Non, monsieur. »
Vide tes poches, lève-toi et vide-les sur le bureau. C'est ce que fait Christian.
Un mouchoir, un canif, des billets, de la monnaie, un briquet, des cigarettes. Rien d'autre?
Non, monsieur.
Ton nom?
Christian. Comment?
Ton nom? Il voit un paquet entamé de biscuits Pontois.
Pontois.
Tiens, tu es de la famille à Pontois?
Oui, monsieur, le fils.
Et que fais-tu tout seul à Paris?
Le jeune réfléchit.
Je suis venu voir un ami.
Quel ami?
Il est parti à Cannes pour le festival.
Qui est-ce?
Frédéric Thomas.
Je croyais qu'il ne faisait plus de cinéma celui-là.
Oui, mais il va recommencer.
Et tu le connais?
Oui, très bien.
Ma famille aussi. Mon père, la radio, la télé.
Bon, nous verrons. Nous allons vérifier tout ça.
À Paris, tu le jettes chez qui?
Chez lui, tiens.
Tout seul?
Oui, parce qu'il est adulte.
Il est major.
Mais toi, tu as quel âge?
18.
T'en parais à peine 16.
C'est-à-dire que j'ai été malade,
le commissaire lui dit.
Ton histoire me paraît bizarre.
Je ne crois pas beaucoup.
Fais attention de ne pas me mentir comme ça.
On ne ment pas comme ça, un commissaire de police.
Je vais te faire donner une cellule. Tu dois avoir sommeil.
Demain matin, on va sûrement vérifier. Et là, il ne faudra pas nous mentir.
Car tout ce que tu vas dire va être consigné. Le
commissaire se lève. Viens.
Et le jeune le suit. Il sort du bureau. Le commissaire le mène à un étage plus bas. Fais ouvrir une cellule. Entre. Il entre. Il y a une porte en bois. Le jeune s'allonge sur le banc.
Et essaye de dormir.
Thank you. effrayé par du bruit.
La porte qui s'est ouverte. Un agent lui dit « Viens avec moi ».
Il se lève de son banc et suit l'agent. Il le mène au même commissaire. Entrez. Mais cette fois, il est avec un autre qui va taper sa déposition. Le commissaire lui dit « Assieds-toi ». Il s'assoit.
Tu veux un petit déjeuner ? Oui. Agent, un petit déjeuner. Le policier dit « Bien, monsieur le commissaire ».
Et l'agent va chercher le petit déjeuner.
Le commissaire demande « Tu as bien dormi ?»«
Un peu, oui. » »«
Bien. Après avoir mangé, on va te poser des questions. Et il faudra que tu répondes à toutes ces questions. Mais si tu mens, il faudra faire très attention. Ça pourra aller très mal pour toi. Tu as compris ?»«
Oui. »
On frappe à la porte. « Entrez. » C'est le plateau. Pour le petit déjeuner.
Il va être déposé sur le bureau du commissaire.
Le commissaire dit au jeune, assieds-toi et mange.
C'est ce qu'il fait. Il trouve cela très bon. Il n'a jamais aussi bien mangé depuis longtemps. Que se passe-t-il ? Comment tu auras froid ? Qui pour lui, la vie humaine ne signifie rien ? Lui qui vit en marge de tout, peut-il se comporter comme ça ? Comme un gamin qui se laisse prendre par un commissaire et traité comme ça. Est-ce que l'ADN qui est émis dans le corps du jeune adolescent et qui est un ADN qui doit lui donner le caractère d'un tueur à froid, vous me suivez, ne répond plus. Est-ce que l'ADN, au lieu de jouer, de garder son caractère, s'est fondu dans le caractère du corps du receveur? Est-ce que l'ADN dominant est devenu une éponge? Si c'est le cas, tout ce qu'a fait le jeune garçon sur l'emprise du caractère du criminel peut-il lui être reproché? Peut-on juger le criminel qui a été mis en lui, malgré lui, sans le juger lui? Peut-on punir l'ADN qui a été mis dans son corps sans le punir lui? Vous me suivez? Ce pauvre gosse semble bien innocent et incapable de tuer. Alors si on le punit, ne serait-ce pas de l'injustice? Que faire? Comment voir si l'esprit criminel ne va pas se réveiller? Comment le faire disparaître? L'extirper du corps de ce jeune adolescent. Il y a 500 ans, on aurait été chercher l'exorciste. Mais peut-il agir sur l'ADN? Et qui peut me dire que ces questions ne vont pas se poser? Si l'on peut faire entrer dans le corps d'une personne l'esprit d'un autre, qui est responsable? La personne qui est le corps ou l'esprit qui a été greffé dans ce corps? Est-ce que le corps peut être entièrement libéré de son esprit d'origine? Est-ce qu'il peut
en restait quelque chose. Deux esprits peuvent-ils coopérer dans un seul corps? Alors qui est responsable de quoi? Pour le moment, le jeune garçon est bien embarrassé. Il ne sait plus qui il est. Après avoir mangé,
il retourne s'asseoir vers le commissaire.
Le commissaire lui dit : Tu as bien mangé ?
Oui.
Bon, nous allons commencer à te poser des questions. Fais bien attention à ce que tu vas dire. Nom, prénom. Christian Pontois. Âge, 18 ans. Que faisais-tu à Paris?
J'étais venu voir un ami.
Son nom?
Frédéric Thomas.
Que faisais-tu seul dans la nuit?
Je me promenais.
Où était ton ami?
Il était parti au festival de Cannes.
Où vivais-tu?
Chez lui, seul.
Bien. Que comptais-tu faire?
Rentrer chez moi à Lyon.
Ta famille sait que tu es à Paris?
Oui.
Bien. Je vais te remettre tes réponses au juge. Ils diront ce que l'on peut faire pour toi. Si tu as vraiment 18 ans, on te libère. Si tu es mineur, on te ramène chez toi. Ça va?
Oui.
Approche-toi du bureau, je vais te faire signer ta déposition.
Le petit appel lui apporte les papiers.
Il signe. Le commissaire lui dit : Bien, nous allons te ramener dans ta cellule. Faites venir l'agent.
L'agent qui tapait va à la porte, il l'ouvre. L'agent entre.
Amenez ce jeune homme dans sa cellule. Après, nous verrons.
Le jeune se lève, essuie l'agent.
Lucien est au salon avec Pascal assis dans des fauteuils.
On a frappé à la porte.
Entrez!
Entre le domestique.
Monsieur, il y a un policier qui aimerait vous parler.
Lucien dit à Pascal : Tu dois être pour le corps de mon père.
Ils ont dû le retrouver. Faites venir le commissaire.
Bien, monsieur.
Et le domestique s'éloigne. La porte s'ouvre. C'est le commissaire.
Un jeune homme dans les 27 ans, grand, mince, cheveux châtains, très clairs, beau visage, avec de grands yeux bleus, est habillé d'un costume strict marine. Lucien et Pascal se lèvent.
Ils vont vers lui.
Vous désirez me parler, monsieur? C'est sans doute au sujet du corps de mon père,
le commissaire lui dit.
Non, monsieur. On me demande c'est de faire une enquête parce qu'à Paris, la police a interpellé un jeune homme, un tout jeune homme qui se dit être votre frère.
Lucien lui dit, je n'ai pas de frère. Décidément, ma famille intéresse beaucoup de monde et des tas de gens se disent d'en être. Il n'y a pas si longtemps, une jeune fille voulait à tout prix être ma sœur qui a disparu et maintenant j'ai un frère. Malheureusement, j'ai jamais eu de frère.
Qu'a fait ce jeune homme ?
Le commissaire lui dit.
Pour le moment, vagabondage mineur, peut-être fugue, mais rien de grave.
Lucien lui demande. Vous pouvez me montrer une photographie de mon soi-disant frère ?
Oui, bien sûr, monsieur.
Et le commissaire lui sort une photographie de son portefeuille et la lui tend. Lucien regarde bien et lui dit.
Non, je ne connais pas cette personne.
Et rend la photographie.
Le commissaire lui dit, « Bon, eh bien, excusez-moi de vous avoir dérangé. Je vous en prie. »
Et le commissaire les quitte. Une fois qu'il est parti, les deux garçons vont retourner s'asseoir.
Pascal lui demande, « Était comment ton soi-disant frère ?» Lucien lui répond, « Pas mal du tout. Du type à faire un insecte. »
Pascal lui dit, « Salaud, t'aurais pu lui dire que c'était vrai et le faire venir ici. Maintenant, tu dois le regretter. »
Lucien lui dit, « Sûrement pas. Tu me suffis largement. Puis au lieu de dire des bêtises, va mettre de la musique. »
Et Pascal va vers la chaîne.
Paris, le commissaire a reçu un fax disant que le jeune n'avait pas cette identité. Il se dit « un fugueur ». Il rappelle le jeune à son bureau.
Assieds-toi.
Tu nous as menti. Maintenant, tu veux me dire ton nom.
Christian ne répond pas. Le commissaire lui dit.
Si tu ne parles pas, nous trouverons nous-mêmes. Mais tu en paieras les frais. Et tu seras puni pour nous avoir menti. Alors parle.
Christian lui dit. Si je vous dis la vérité, vous ne me croirez pas. Le commissaire lui dit.
Tu sais, j'ai l'habitude d'entendre des tas de choses. Tu ne peux pas savoir toutes les horreurs que j'ai apprises. Or, je suis major et vacciné. Tu peux tout me dire. Parle.
Christian se dit, autant lui dire.
Voilà. Je ne sais pas qui je suis.
Le commissaire lui dit,
tu te fiches de moi?
Non, je vous assure. Je ne me souviens de rien. Un trou noir. Un jour, je me suis réveillé. J'étais bizarre. Je crois que j'étais dans un lit à l'hôpital. Impossible de me souvenir de rien. Et sans réfléchir, je suis parti de l'hôpital. Mais, chose bizarre, j'avais l'impression que j'étais moi sans être moi. C'est comme si j'étais télécommandé de l'intérieur. Comme si mon cerveau n'était pas moi.
Le commissaire lui demande.
Et qu'as-tu fait?
J'ai erré dans les rues. Et lorsque vous m'avez accosté, il s'est passé un truc. J'ai eu l'impression de devenir moi-même.
Le commissaire lui dit.
Tu ne cherches pas à me bluffer?
Non, je vous assure.
Bien. Tu as peut-être eu un moment d'amnésie à la suite d'un accident et on t'a amené à l'hôpital. C'est sûrement ça ta cicatrice. Tu ne te souviens vraiment de rien, ni de ton nom?
Non, monsieur le commissaire.
Bien, nous allons faire les hôpitaux. Puisque là aussi, peux-tu me dire dans quel hôpital tu viens?
Christian lui dit.
Je me souviens seulement que j'ai beaucoup marché, le
commissaire lui dit.
En attendant, je vais te mettre dans un foyer pour jeunes.
Le commissaire envoie des enquêteurs avec la photographie du jeune dans les hôpitaux de Paris et en province, et met la photo dans les journaux. Jérôme Briquin voit la photo dans le journal et téléphone de suite à Danfort.
Que devons-nous faire? Danfort lui dit, il faut le reprendre. Il est trop dangereux. Une fois qu'il sera pris, l'éliminer.
L'enfant Riquin lui demande
« Que va penser la police si on lui explique ce que l'on a fait aux opinions publiques ?»
L'enfant lui dit
« Si on le laisse en liberté, ce sera pire, car il y aura plein de cadavres. Je vais aller voir le ministre de l'Intérieur. Ne vous faites pas de soucis. »
Et Danfort prend rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur, qui le reçoit de suite dans son bureau. Une grande pièce meublée Louis XV. Le ministre est un grand homme sec, cheveux châtains, costume marine. Je vous écoute. Il lui explique qu'il a vu dans le journal la photographie d'un jeune homme que la police a pris et qu'il aimerait bien récupérer. Pourquoi ? Vous le connaissez ?
Eh bien, monsieur le ministre, c'est un de nos patients.
Le ministre lui dit : Quel patient ? Vous n'avez pas d'hôpital.
C'est-à-dire que nous avons des laboratoires et que nous avons beaucoup de patients pour certaines expériences. Nous avons besoin de patients pour certaines expériences, vous comprenez ?
Et quel est ce jeune homme ?
L'enfant lui dit : C'est un peu compliqué. En réalité, c'est deux personnes réunies.
Le ministre lui dit : Cela ne se peut.
L'enfant lui dit : Malheureusement, si. Et j'aimerais récupérer cette personne.
Le ministre lui dit : Avant tout, j'aimerais savoir ce que c'est que cette histoire de deux en un.
Danfort lui explique l'ADN et tout.